Si on tente de dresser un état des lieux des difficultés auxquelles sont confrontées les familles orthodoxes, et notamment leurs enfants, dans un premier temps, les bras vont nous en tomber. Peut-on rester optimiste? Je vous dis tout de suite oui. Mais la question se pose quand même. En effet, les transformations de nos sociétés créent des situations concrètes qui accroissent les difficultés que nous rencontrons à tous les niveaux. Nos familles semblent avoir bien du mal à maintenir leur foi et leurs pratiques religieuses. Quant aux jeunes, ils sont tellement sollicités par le monde. Et dans quelle mesure peuvent-ils y échapper? Qu'après une enfance même éventuellement pieuse, passée à certain âge, force vous est de constater qu'un grand nombre désertent l'Église, souvent l'abandonnent, apparemment du moins. Ils abandonnent aussi apparemment la foi et parfois même s'y opposent radicalement, au moins pour un certain temps. Nous en décourager et abandonner tout espoir serait une grande faute et un grand manque de foi en même temps. Dieu, qui des pierres du désert est capable de faire surgir des pains, n'est-il pas capable de sauver ceux qui semblent dilapider l'héritage de leur père? La parabole du Père miséricordieux et du Fils prodigue est là pour nous le prouver, et c'est toujours d'actualité. De plus, Jésus ne nous a-t-il pas dit aussi et prévenu que ses disciples seraient livrés à l'affliction, qu'ils seront tués, qu'ils seront haïs par toutes les nations à cause de son nom? Alors beaucoup chuteront, dit-il, les uns et les autres se livreront, ils se haïront les uns les autres, l'iniquité se multipliant, l'amour de beaucoup se refroidira, mais qui durera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez qu'il est toujours possible de vivre chrétien, si vous acceptez la croix et le martyr. Si ces paroles ne peuvent que nous encourager à persévérer et à reconnaître humblement que nous ne faisons quand même pas fausse route, rien ne nous empêche d'essayer de cerner les causes de ces désertions afin de trouver les attitudes appropriées pour affronter chrétiennement ces situations qui, comme nous le voyons, rentrent aussi dans les plans de Dieu à défaut d'être directement sa volonté. Il conviendrait peut-être d'abord d'entendre ce que nous concevons comme l'idéal de la famille chrétienne, car aux yeux de beaucoup, et même parmi des orthodoxes, cet idéal peut sembler suranné et se réduire à un modèle de vie désormais archaïque, simple héritage désuet des siècles passés, complètement démodé et impossible à maintenir. En effet, de nombreuses modifications viennent changer la conception moderne de la famille et de l'idéal apparemment des personnes, selon le mode de vie, selon le monde, bien sûr. Et là, la liste est longue. Je ne puis en dresser un panorama un tant soit peu complet, je me contenterai d'expliciter quelques-unes de ces données nouvelles qui affectent les familles depuis plusieurs décennies. D'abord, de plus en plus rares sont dans nos pays d'Occident, même si cela n'est pas encore le cas général chez nous, Ça va, hélas, vite arriver. Les familles qui ne sont pas recomposées après un, voire deux, quelquefois plus de divorces. La majorité de nos enfants sont des fils et des filles de personnes divorcées. De surcroît, des couples homosexuels se revendiquent comme modèles de famille et réclament que l'on nomme mariage leurs unions. Nous avons rencontré il y a peu un enfant qui nous disait avoir quatre papas et pas de maman. Nous en sommes aujourd'hui à prôner la théorie du genre dans l'éducation nationale, théorie selon laquelle chacun pourrait choisir librement le sexe qu'il veut, même contre toutes les évidences physiques. Mais où donc s'arrêtera la folie? Dans d'autres cas, les enfants ou l'enfant unique vivent seuls avec leur papa ou avec leur maman, formant des couples affectivement liés par une force anormale, ou au contraire, se trouvent en trop et non désirés avec leurs parents qui cherchent à refaire sa vie. D'une façon plus générale encore, la nécessité de gagner deux salaires laisse les enfants, même tout jeunes, seuls de longues parties de leur journée et de leur soirée, pendant lesquelles ils s'ennuient et cherchent à s'occuper soit en regardant la télévision, soit plus tard en sortant en bande désœuvrée. Faut-il ajouter que l'éducation que voudraient encore offrir des parents chrétiens à leurs enfants est souvent contrecarrée par les programmes scolaires dont le but consiste à éradiquer toute forme de foi, surtout chrétienne. Que les mœurs dans les domaines sexuels et affectifs sont falsifiées, et à nos yeux de chrétiens, nous devrions dire perverties, par l'accès à Internet et à la pornographie omniprésente qui échappe aux parents dès le plus jeune âge de leurs chérubins. Ils se leurrent d'ailleurs lorsqu'ils croient encore que les logiciels de contrôle parental protègent réellement leurs enfants, que les cours d'éducation sexuelle sont très souvent des cours d'initiation et de revendication à la débauche dont les jeunes enfants sont victimes et marqués à vie. Enfin, à combien de drames, assistons-nous dû à la consommation de narcotiques mis à la disposition des jeunes jusque dans les cours de récréation des collèges et des lycées. Je ne peux pas ne pas évoquer les multiples expériences meurtrières dues aux avortements dont les femmes et les jeunes filles, parfois très jeunes, porteront toute leur vie les conséquences douloureuses alors que leur conjoint, souvent occasionnel, n'en assume pas les retentissements, bien qu'évidemment, il porte une part non négligeable de responsabilité. Combien d'âmes sont ébranlées par leur culpabilité refoulée, par de la honte inexprimée, par un remords impossible à étouffer et qui se sentent toute leur vie en porte-à-faux lorsqu'elles se trouvent devant la communion, quand encore elles osent, heureusement, s'en approcher. C'est souvent dans la dernière partie de leur vie qu'elles osent enfin le confesser et manifester un véritable et authentique mais tardif repentir. Que de souffrances sont ainsi accumulées, que d'occasions de se détourner de la vie consciemment tournée vers Dieu. Quelle souffrance ! Nous avons évoqué les enfants et les plus jeunes, mais les personnes âgées ne sont pas épargnées. Les conditions de vie modernes incitent souvent les familles à rejeter leurs ancêtres dans des maisons de retraite, qui sont parfois de véritables mouroirs, où les démons côtoient des anciens isolés et abandonnés à leur ennui et parfois à leur désespoir. C'est triste parce que les jeunes n'ont plus ainsi l'occasion d'apprendre à aimer ceux qui avaient pourtant acquis, par le nombre de leurs années, un peu de sagesse. Ils ne peuvent pas davantage bénéficier de l'amour gratuit que tous les grands-parents pouvaient accorder à leurs petits-enfants, parce que ces derniers n'ont pas la responsabilité directe et journalière de l'éducation dans leur descendance. Mais quel désert faisons-nous ? Et les drames ne s'arrêtent pas là. Tôt ou tard, les familles sont mises à l'épreuve par le corps médical, lorsque les vieillards sont plus ou moins en fin de vie, psychiquement diminués ou dans la souffrance physique. Il leur est proposé de hâter le décès de la personne en l'euthanasiant, décision que l'on couvre pudiquement et assez hypocritement par l'expression « mourir dans la dignité ». Les familles ne sont pas toujours armées psychologiquement et spirituellement pour résister à la tentation. Faut-il ajouter que beaucoup d'orthodoxes sont plus ou moins forcés à s'expatrier ? Ils se trouvent alors dans des pays où les églises orthodoxes de leur langue sont rares ou éloignées, où leurs traditions sont ignorées, traditions qui, dans leur pays, les maintenaient pourtant proches de la vie de l'Église. Ils perdent alors le chemin des sacrements, du jeûne, de la prière et tout simplement de la vie chrétienne. Combien connaissons-nous d'exilés que l'on voit dans nos églises qu'à Pâques et quelquefois à Noël ? Vous ne savez pas le nombre d'orthodoxes autour de notre monastère qui nous sont inconnus. On ne découvre leur existence souvent que lors de leur mort, c'est un peu tard. Quand les familles recherchent un prêtre orthodoxe pour les enterrer, s'ils n'ont pas d'abord demandé à un prêtre catholique de le faire, qui lui se garde bien de dire qu'une église orthodoxe n'est pas trop loin. D'autres facteurs contribue encore à fragiliser les familles et a fortiori à les éloigner de la spiritualité orthodoxe. Par exemple, depuis des décades, on a favorisé les études universitaires, que je ne condamne pas, pour autant, au détriment des préparations à des professions plus manuelles. Le résultat, c'est qu'au cours des premières années d'université, beaucoup d'étudiants, accaparés par leurs études ou entraînés par leurs condisciples et se trouvant tout d'un coup libérés du contrôle ou de l'exemple des parents, utilisent leur liberté toute nouvelle et l'argent des parents pour faire outrancièrement la fête, se détournent de la vie spirituelle et font toutes sortes d'expériences qui les mènent aux antipodes d'une vie de foi selon les principes évangéliques. Des difficultés supplémentaires découlent de ces situations. De nombreux jeunes, tenus par des motifs pécuniaires, restent excessivement longtemps sous le toit des parents ou en dépendance financière. Ils ne peuvent pas quitter sainement son père et sa mère pour s'attacher à une femme ou un mari, comme le préconise toute la tradition biblique et chrétienne. Faut-il aussi évoquer la liberté sexuelle, l'amour libre dont on nous rabat les oreilles depuis des décennies? Faut-il évoquer l'imaginaire d'un corps dont nous serions libres de faire ce que nous voulons, quand nous le voulons et comme nous le voulons? Faut-il évoquer donc cette confusion entre la liberté et la pulsion, la liberté et le caprice, et ce qui a pour effet de multiplier les liaisons et les ruptures, de faire vivre des divorces affectifs et psychiques à des personnes qui n'ont pas été mariées, et de faire perdre à ces mêmes personnes la confiance dans l'autre, de discréditer l'idée même de fidélité? C'est le sens même du mariage qui, suite à toutes ces blessures, est profondément atteint. En effet, la notion même d'amour s'est édulcorée. L'amour proposé par le monde est au mieux un bout de chemin de vie fait à deux qui ne durera pas plus longtemps que la fougue amoureuse. C'est une forme d'amour sentimental et romantique déclenchée par une sorte de coup de foudre qui s'impose à une personne et qui l'envahit, la forçant à aimer l'autre. Mais ce sentiment tourné vers la satisfaction personnelle ne dure pas toute la vie. Si donc il y a échec ou édulcoration de cet amour, on en prendra acte dans cet esprit-là, la séparation ne tardera pas et on tentera, mais le cœur brisé, une nouvelle deuxième, troisième ou énième aventure. La tradition orthodoxe nous enseigne tout autre chose de l'amour conjugal. Même s'il peut se révéler par un coup de foudre, et s'il est ressenti dans son affectivité, l'amour chrétien est appelé à s'orienter vers une fidélité perpétuelle à cet amour qui a été ressenti un jour et que l'on avait alors estimé suffisamment fort pour nous y engager toute la vie et bâtir quelque chose à deux, quoi qu'il arrive. Car des épreuves, il y en aura et il y en a forcément. Et des chamailleries, et des désaccords, et des déceptions, voire des trahisons. Mais le mariage chrétien, parce qu'il est fondé sur la fidélité du Christ à son Église, malgré les péchés et les traditions de ses membres, et les trahisons, j'ai dit tradition, et les trahisons de ses membres, est une école d'apprentissage d'humbles demandes de pardon, parfois souvent répétées, et d'exercice du pardon, parfois souvent renouvelées, qui conduisent à la fidélité sous l'action de l'Esprit Saint et de la vie du Christ en nous. Par une autre voie que la vie monastique, le mariage des chrétiens orthodoxes est une école de renoncement à sa volonté propre, c'est une ascèse, et cette ascèse fonde la durabilité et la fidélité. Nous savons tous que des échecs peuvent venir dans les démariages authentiquement chrétiens. Mais cela ne doit pas nous rendre frileux pour nous engager dans cette voie réellement transfigurante aussi, et la conserver comme un but, un idéal, une norme, une vocation vers laquelle nous diriger. Ni ne nous autorise à considérer les échecs visibles comme l'habitude, la norme ou l'inéluctable destin de l'amour humain. Les inévitables tensions au sein d'un couple ne peuvent pas se régulariser par la séparation ou le divorce dont les enfants auront à souffrir toute leur vie et porteront innocemment les tragiques conséquences. Je connais plusieurs directeurs de lycée et de collège qui affirment reconnaître les enfants qui ont eu le malheur de connaître la séparation de leurs parents à travers les séquelles qu'ils traînent tout le temps de leur vie scolaire et au-delà, comme le savent tous les confesseurs. Comme Jésus qui est descendu dans le royaume de la mort pour en ressurgir vainqueur, après cette pénible, mais abrégée, descente aux enfers que je viens de vous infliger, il est nécessaire d'y mettre un terme, sauf à courir le risque de devenir pessimiste, désespéré ou désabusé, ce qui n'est évidemment pas mon but. Avec lui, le Christ, remontons maintenant et invoquant l'Esprit Saint, cherchons à trouver comment affronter ces situations en tant qu'orthodoxe. Nous avons tous conscience que ce n'est pas en fomentant des révolutions, ni par la violence, ni par la restauration d'un monde ancien, ou bon an, mal an révolu, que nous trouverons la voie et le salut. Tout ce que nous avons dit précédemment ne fait que vérifier ce que nous disait notre Seigneur et que j'ai cité au début, viendra un temps où la foi de beaucoup se refroidira et l'iniquité se multipliera. Il n'est cependant pas aisé de réagir à ce bouleversement radical des normes du monde ancien qui s'était laborieusement édifié, peu ou prou, sur des principes évangéliques, même si cet ancien monde cachait aussi bien des vices, de l'hypocrisie, des bassesses, des amertumes et des frustrations. Le royaume de ce monde n'est pas le royaume de Dieu n'est pas encore parvenu à son apogée et ne l'a jamais été. Nous sommes encore dans l'attente. Cherchons maintenant, si vous voulez bien, les causes de ces bouleversements dont la cadence s'est vertigineusement accélérée ces 30 ou 40 dernières années. Une première constatation que notre instinct de survie ou notre orgueil nous force souvent à repousser en nous voilant la face, c'est qu'un esprit authentiquement satanique, au sens réel et fort du mot, souffle sur l'ensemble de notre monde et se propage à la vitesse d'un ouragan, même là où on s'y attendait le moins. Il y a de toute évidence une orchestration intelligente des forces malignes qui mènent la danse sur l'ensemble du monde, qui aveugle les hommes, paralyse leurs efforts, les incite au mal, les divise entre eux et les conduit à l'autodestruction individuelle et collective. Tout cela entouré d'une conspiration de silence. Il est quasiment impossible de faire entendre une voix discordante. Elle est immédiatement étouffée par les organes d'information. On en parle peu, on la montre peu, juste ce qu'il faut pour donner une illusoire impression d'impartialité et de neutralité. Quant à faire connaître la vérité, là encore, l'Église est bien impuissante, car sauf à parler dans nos petits cercles de croyants déjà convaincus, dont vous êtes la preuve, l'expression aujourd'hui, il est quasiment impossible de dire que pour les chrétiens, la vérité, une vérité existe bien et qu'elle n'est pas une notion théologique, mais que cette vérité est une personne qui est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le monde entier est devenu comme les membres de l'Aréopage d'Athènes au temps de saint Paul, qui, lorsqu'il leur annonçait Jésus, lui répondait par une fin de non-recevoir, « Cause toujours, on t'écoutera une autre fois. » Pire que cela, le monde contemporain, ou plus exactement sa mise en scène médiatique, se repaît d'une contrefaçon de liberté. Cette liberté consisterait, selon elle, à assouvir tous nos désirs. La mainmise des publicités sur notre imaginaire répète de façon obsessionnelle cette imposture. Et les médias, le politique, l'éducation scolaire sont minés et modifiés par la puissance de cette illusion. De façon tragique, cet onirisme d'une libération ludique est accompagné de ces malheurs de tous les temps et plus que jamais présent dans notre monde que sont les guerres, l'exil des populations entières, la pauvreté et la misère. Selon ce sont là les facettes multiples d'une immense et efficace machine à étouffer la vie spirituelle et dont les chrétiens sont les premières et essentielles victimes désignées. Comment ne pas voir, par ailleurs, que des techniques lovées dans la banalité et l'ordinaire de notre quotidien mettent la tentation, le mal et le vice à la portée de notre main. Il n'y a qu'à promener la souris sur Internet pour faire apparaître dans la seconde qui suit, à l'abri de tout regard, apparemment du moins, les images du malin. Il est d'ailleurs difficile d'y échapper, même sans les rechercher. C'est une sollicitation invasive permanente et pour tous. L'esprit du monde, et ce n'est pas nouveau, nous en avons déjà la manifestation dans le récit de la chute selon le livre de la Genèse. L'esprit du monde, donc, veut mettre l'homme au centre de l'univers. C'est-à-dire que lui, l'homme, prétend gérer toute chose à sa guise, selon son bon vouloir. Nous sommes témoins d'une négation radicale qu'il y a un ordre créé et transcendant qui vient de Dieu et qui nous dépasse. La vie ne nous a pourtant pas été donnée pour que nous donnions un sens selon notre imagination individuelle ou selon nos aspirations. Elle n'a pas pour but de nous rendre uniquement heureux, c'est-à-dire jouissant des bénéfices et des douceurs de ce monde durant les quelques années que dure la vie. Quel échec ce serait si la vie n'était que cela. Le sens de la vie est donné par Dieu et conduit les hommes vers la maturité spirituelle qui fera d'eux des êtres déifiés. C'est quand même plus enthousiasmant. Tout le cosmos et toute l'histoire conduisent à cela, la déification de l'homme par la grâce de Dieu, mais avec sa participation volontaire et libre, et la transfiguration du monde, de tout le monde, du cosmos. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation des enfants, le leitmotiv consiste à les inviter à trouver le bonheur et leur épanouissement individuel envers et contre tout, souvent contre tous d'ailleurs. La performance, la compétition, la rivalité, l'expression individuelle sont devenues la norme. Ainsi, protégés à l'extrême, nos enfants rois ne sont pas confrontés à l'inquiétude ou à l'interrogation de leur destinée éternelle. Coupés des malades, des vieillards et des défunts qu'on leur cache dans les funérariums et que l'on brûle afin qu'il ne reste plus aucune trace, les jeunes ne se posent souvent même plus la question de l'après-vie terrestre, somme toute assez courte. Dans d'autres régions, au contraire, ils sont confrontés, et ce n'est pas mieux, au drame de la misère des guerres, de la souffrance, de la mort tragique, de la survie aléatoire. L'esprit de ce monde, ancré dans l'exaltation du désir, nie de façon explicite et militante que la luxure existe et qu'elle soit une maladie spirituelle. L'esprit du monde veut nous la présenter comme la norme, comme le bien, comme le fruit de notre liberté, notre droit inaliénable. Certes, la lutte pour la pureté et la chasteté n'a jamais été facile. Elle est une tension et un combat perpétuel vers un idéal. Mais baisser les normes à l'échelle de ce que l'on réalise réellement conduit les hommes au découragement, au dégoût de soi, à l'oubli de Dieu, à l'addiction au mal, à la soumission au malin. N'est-il pas plus sage de laisser l'idéal là où Dieu l'a placé et d'essayer de s'y conformer humblement, même si nous devons constater des chutes? Celles-ci, ces chutes, conduisent à l'apprentissage nécessaire et indispensable du repentir et de l'humilité, attitude intérieure indispensable pour cheminer dans la connaissance de Dieu, dont nous parlions l'an dernier et dont nous avons reparlé au cours de l'année, bien sûr, dans la communion de vie avec lui et dans la connaissance, déjà ici-bas, de la relation consciente et vivante avec lui et avec nos frères les hommes, tous. Et regardons encore comment se manifeste ce désir du monde dans sa prétention de tout pouvoir gérer selon sa volonté propre, et encore, pas la volonté propre de tous, mais de celle de l'élite qui dirige le monde et derrière laquelle se profile l'ombre du diable qui tire les ficelles et entoure les hommes et dans les filets aux mailles de plus en plus serrées. Aujourd'hui, les progrès techniques de la science permettent de choisir le moment de la procréation ou de s'en affranchir. Demain, on va pouvoir choisir le sexe de son enfant et même son type d'intelligence en fonction des soi-disant besoins de la société. Et comme aujourd'hui ce n'est pas encore possible, on inculque dans la tête des jeunes générations que l'on peut choisir son genre, masculin ou féminin, ou même déjà éventuellement d'en changer. Mais on joue aux apprentis sorciers. Et ça, c'est pas une image, cette expression. Je terminerai cette triste analyse par la mention de ce mensonge honteux que sont les mythes de l'éternelle jeunesse et du progrès perpétuel. La mode, les journaux et les périodiques nous font croire que l'on pourrait être éternellement jeune, à la police et plein de forces physiques et intellectuelles. Notre éducation voudrait nous faire accroire que plus l'histoire avance, plus elle progresse. Certes, les connaissances scientifiques évoluent et progressent, mais est-ce là le sens de notre vie? Est-ce que cela apporte le bonheur, même temporel, aux hommes, et par-dessus tout, leur bonheur éternel? À considérer le nombre de personnes qui consultent des psychanalystes, qui prennent des antidépresseurs et qui tentent d'échapper au monde par toutes sortes de drogues, à la vue du nombre de ceux qui se suicident ou qui traînent leur vie comme un boulet, il est permis d'en douter. Ne croyez-vous pas que l'humble acceptation de notre condition humaine passagèrement sur Terre mais devant s'épanouir dans le royaume des cieux après le passage de la mort, est précédé par tout un processus de vieillissement qui peut être une réelle beauté intérieure et autrement plus beau et véritablement vrai, si je peux dire. La mort est comme une nouvelle naissance à un monde nouveau dont l'expérience nous a déjà été donnée en prémisse durant cette vie, si nous avons accepté de la rechercher et de la voir. Accepter cette vision, cette attitude, ne nous conduirait-il pas plus à d'équilibre et à plus d'épanouissement? Un ami nous dit souvent qu'à son avis, la mort est le passage qui consiste à tourner la page d'un prologue d'un livre, du livre de notre vie, afin de commencer dans l'au-delà à écrire le premier chapitre et tous ceux qui suivront éternellement. N'est-ce pas plutôt cela la conception orthodoxe de la vie et de la résurrection? Maintenant que nous avons un peu cerné l'esprit qui préside aux tentations que nous rencontrons dans nos familles et dans les jeunes générations, nous avons encore la responsabilité, malgré les dirigeants qui voudraient nous en spolier, allons-nous baisser les bras en pensant que tout est perdu? N'allez pas estimer que je sois pessimiste ou que je vous fais une présentation défaitiste du monde contemporain. Je suis sûr, au contraire, que chacun de vous aura reconnu dans mes propos des situations qui lui sont familières et qu'il expérimente parfois tragiquement. Souvenez-vous de la citation que j'ai faite en commençant, de que ce que Jésus nous prédisait de l'esprit du monde et de l'encouragement à persévérer jusqu'à la fin. Certes, nous n'avons pas des solutions immédiates pour tous les sujets, et je ne peux pas vous donner aujourd'hui des recettes infaillibles. Cependant, nous savons que notre Dieu est bon et qu'il veut le salut de tous les hommes. Et il ne laisserait pas vivre le monde si les hommes qui y évoluent ne pouvaient pas trouver le salut. Je crois que nous pouvons dire que Dieu ne pénalise personne en fonction de son époque ou de sa civilisation ou de son caractère ou de son éducation. À chaque époque dans l'histoire de l'humanité, malgré l'extrême variété de situations dans lesquelles les hommes se sont trouvés, Dieu a donné à chacun la possibilité d'être sauvé et il a aidé chacun à trouver le salut, soutenant chaque personne en particulier pour lui permettre de relever les défis auxquels elle est confrontée, eu égard au monde dans lequel elle vit d'une part, et à ses traits de caractère propres dans ce qu'elle a de bon et de moins bon, toujours dans le respect de sa liberté réelle. Notre époque ne fait pas exception à cela. Il y a peut-être des époques où il fut plus agréable de vivre qu'à d'autres, mais il n'y en a pas eu où la foi et la sainteté furent plus faciles. Êtes-vous certain que si vous aviez été juif au temps de Jésus, vous l'auriez reconnu et su plus facilement qu'aujourd'hui? Je suis loin de le penser pour moi-même. Ainsi, la première chose que nous puissions et devions faire, c'est de continuer à vivre paisiblement selon les principes et selon la foi auxquels nous a initiés Jésus et que les apôtres, puis les pères de l'Église nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. De cette façon-là, nous montrerons au monde qu'il est encore possible de vivre en disciple du Christ et qu'il le sera toujours possible. Nous serons des témoins qu'il est vivant, qu'il est présent et qu'il vaut la peine de vivre et de mourir pour lui. Notre mission est d'en témoigner, mais pas d'en convaincre les autres, même pas nos enfants, encore moins de les contraindre, bien sûr. Qu'ils suivent l'exemple que l'Église voudrait leur donner n'est pas de notre ressort, mais il est du pouvoir de Dieu seul qui sait ce qui est bon pour le salut de chaque personne. Témoigner, cependant, dépend de moi, en synergie avec la grâce de Dieu, mais convaincre ne dépend pas de moi. Mon souci de témoigner ne doit pas se laisser scléroser par le mirage de l'efficacité. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. L'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême vit en nous. Il nous greffe de fait sur la vie de Jésus. Or celui-ci, dès sa gestation embryonnaire dans le sein de sa mère, la toute sainte et toujours Vierge Marie, n'a cessé d'expérimenter avec nous et par amour pour nous toutes les conséquences de notre péché, sauf la participation à celui-ci, bien sûr. Et dès sa naissance et tout au long de sa vie, expérimentant une vie humaine comme la nôtre, lui qui cependant est resté Dieu, il nous a redonné à notre âme le dynamisme nécessaire pour nous retourner vers le Père. Il ne s'est pas contenté de nous montrer l'exemple afin que nous l'imitions, mais d'une manière mystérieuse, il a agi. Il agit encore, évidemment, en chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et il nous redonne ainsi la force d'aimer l'autre plus que soi-même, de patienter avec joie et action de grâce dans les épreuves, et de désirer activement le royaume des cieux. Parce que lui aussi a été tenté, mais qu'il n'a pas succombé. Il nous transmet la force de nous relever de la tentation et même de l'échec. Parce qu'il a connu la tentation du désespoir et de la peur et de la tristesse et l'expérience de l'abandon de tous. Il nous redonne le pouvoir de supporter nos peines et de faire confiance lorsque nous nous sentons seuls ou trahis ou persécutés. Par le baptême, Jésus s'est moulé à nous, si je peux m'exprimer ainsi, de manière à nous communiquer sa forme, sa force et sa vie. Ça vaut la peine, non ? Affrontant avec lui et en lui nos tentations contemporaines, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, suscite en chacun de nous les solutions adaptées à chaque cas, la patience dans les échecs apparents et inspire les idées nécessaires à la découverte, pas toujours consciente, des attitudes, des pensées et des analyses propres à affronter nos épreuves. Nous devons avoir confiance. C'est une question de foi et une expérience propre aux orthodoxes. L'Esprit Saint vit en nous. Le Jésus agit en nous. Le Père nous tend les bras et nous accueille à chaque moment de notre vie, même lorsque nous nous sommes détournés de lui et que nous l'implorons de nouveau avec un humble repentir. Bien sûr, notre affection, nos sentiments et notre orgueil sont affligés lorsque nous voyons nos enfants se détourner apparemment de Dieu, abandonner apparemment l'Église et abandonner apparemment aussi parfois la foi elle-même et en tout cas le mode de vie selon l'Évangile. Mais nous devrions alors entendre les paroles du Christ lorsque les apôtres l'ont tiré de son sommeil dans la barque alors que la tempête se déchaînait sur le lac de Tibériade. « Mini-croyants, leur dit-il, ne sommes-nous donc pas convaincus que nos proches sont aussi dans les mains du Père et qu'il leur procure ce qui est nécessaire pour qu'ils ouvrent un jour leur cœur à Dieu et à sa présence. Peut-être que ce ne sera qu'au moment de leur mort, mais le bon larron n'a pas été sauvé bien longtemps avant son dernier souffle, lui non plus. Ou Saint Boniface, qui est en pleine débauche, assiste à l'exécution de martyrs pour s'en réjouir. Mais impressionné par leur témoignage, il se joint à eux dans l'arène même pour y assumer lui aussi le sacrifice absolu du martyr pour s'attacher à Jésus. Une multitude d'autres saints connus, oubliés ou inconnus, se sont eux aussi attachés au Christ au tout dernier moment de leur vie. Dans ce cas, il nous est difficile de ne pas éprouver un sentiment d'échec personnel. Mais pour qui nous prenons-nous dans notre orgueil? L'usage de la liberté des autres, fût-ce celle de nos enfants, ne nous engage pas. Leur salut ne vient que de Dieu, pas de nous-mêmes. N'est-ce pas le moment d'imiter notre Maître Jésus-Christ, qui sur la croix ne pouvait qu'expérimenter cette extrême déréliction, cet extrême abandon et une sorte d'échec apparent de son œuvre? Il mourait abandonné de tous, ennemi de la plupart, accusé alors qu'il était innocent. Ses disciples n'avaient pas encore compris son message, ni la portée de sa vie. Seules quelques femmes, dont sa mère et les saintes femmes Mirophore, montraient qu'il était encore possible de l'aimer, sans savoir trop comment d'ailleurs. Et renonçant à exercer sa gloire qui lui revenait comme Dieu, il élevait la foi humaine et celle de tous les hommes et la nôtre au plus haut sublime de la confiance. Devant cette apparente impasse humaine, il a remis son esprit à son Père. Et c'est par cette attitude qu'il nous donne à nous aussi la force d'exercer notre propre foi, tout porter, même les échecs apparents, ceux de notre éducation et de notre exemple, avec une foi inébranlable dans la bonté de notre Père du ciel qui sait comment sauver chaque homme selon ses méthodes propres. Nous savons que le Christ a dit que les portes de l'enfer ne seront pas plus fortes que l'Église. Ainsi, loin de nous scandaliser, nous devrions au contraire être prêts à voir, à envisager la vision de la disparition visible de l'Église de la vie publique, sans perdre confiance en Dieu et dans le salut du monde. Notez quand même que je ne vous prophétise pas qu'elle va disparaître. Mais simplement, nous devons accepter même cette possibilité. Ainsi, réagissait Jésus abandonné à la mort ignominieuse sur la croix. Ne sommes-nous pas appelés à être ses disciples et à vivre ce qu'il a vécu et comme il l'a vécu? Saint Jean, dans ses visions rapportées, racontées dans l'Apocalypse, rapporte les paroles divines suivantes. « Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche et tu es calomnié. Ne crains pas de ce que tu auras à souffrir. Voici que le diable va mettre quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort et moi, je te donnerai la couronne de vie. » Gardons-nous donc de tomber dans l'une ou l'autre de ces deux tentations antinomiques. La première consiste à rabaisser l'idéal chrétien pour le rendre accessible à tous et aux jeunes générations et de créer ainsi une orthodoxie pour les nuls, fin de guillemets, qui serait une tromperie et une trahison et non point une juste expression de la miséricorde. La seconde se complète à insister sur l'exigence de la crivie, de la rigueur, en allant jusqu'à la condamnation des personnes, comme le faisaient les pharisiens du temps de Jésus. Je crois qu'il faut, avec charité et compréhension, maintenir le mode de vie chrétien. Il ne faudrait pas négliger la valeur de l'exemple auprès des jeunes, qui se référeront tôt ou tard aux valeurs, et j'y mets des guillemets, que leur auront montré, dont auront témoigné leurs aînés, même si aujourd'hui ils ne se sentent pas capables ou ne le veulent pas, parce que la pression sociale est trop forte, suivre l'exemple de leur famille, l'exemple concret de celle-ci leur montrera qu'il est encore possible de vivre de la sorte, que ce genre de vie rend libre et heureux. Ainsi, au jour où l'âge, les circonstances personnelles ou historiques, ou encore l'interrogation existentielle les atteindra, ils entameront peut-être alors leur retour vers leur Père, vers le Père miséricordieux, comme l'ont fait le Fils prodigue de la parabole évangélique, Sainte Marie l'Égyptienne, et une foule d'anciens pécheurs ou de sans-dieu endurcis, convertis brutalement ou laborieusement. Est-ce une catastrophe lorsque les enfants quittent la vie chrétienne ou vivent comme s'ils ne la reconnaissaient pas? Bien sûr, cela ne nous fait pas plaisir. Mais il faut savoir que ce que l'on leur a donné, ce qu'on leur a proposé, c'est un héritage pour toute la vie et qui les aura marqués pour toute la vie et dans l'au-delà. Un jour ou l'autre, ils pourront y puiser et se souvenir de la présence de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde et finalement de l'aimer. Il est évident que nous sommes des témoins impuissants d'un certain monde qui s'effondre, qui perd ses repères et même son âme. Mais il importe que ne soyons pas frileux, que nous chassions la crainte et la pusillanimité afin de poursuivre le mode de vie qu'implique notre foi, même si ses valeurs, je mets encore des guillemets parce que je n'aime pas l'expression, sont combattues, moquées, condamnées et s'effondrent tout autour de nous d'une manière pratiquement universelle aujourd'hui. La foi chrétienne sert de repère à plus de personnes que celles qui osent l'avouer. Elle affleure dans nos campagnes, mais la rareté des églises, la pénurie des prêtres et des monastères, parfois les scandales à l'intérieur de l'église, l'opportunisme ou le carriérisme du clergé, empêchent beaucoup de gens de révéler ce qu'ils croient vraiment et ce qu'ils espèrent. Mais grattons un peu sous l'écorce de l'indifférence affichée et nous retrouverons dans toutes les générations une aspiration à la foi, un appel de Dieu. C'est le moment ou jamais d'entendre la parole de Jésus. Ne vous inquiétez pas pour la vie, ne soyez pas anxieux, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez son royaume et cela vous sera ajouté. Ne crains pas, petit troupeau, dit-il encore, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Rien que cela. Il n'est pas nouveau que l'Église annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, à contre-courant. Du temps de l'empereur Julien l'Apostat, pour ceux qui connaissent l'histoire, on voulait forcer les chrétiens à revenir au paganisme. Nous nous souvenons de nombreuses périodes de persécution, et elles continuent. Mais le Seigneur a toujours suscité des croyants, souvent édifiés par le sang des martyrs. En Union soviétique, les églises et les monastères étaient fermés ou transformés en musées, en dépôts ou en piscines. Les évêques, les prêtres, les moines et les moniales furent déportés et exterminés dans d'immenses camps pour y mourir. Mais les Matouchka ont su, d'une manière toute cachée et sur une très longue période, conserver et transmettre la foi à beaucoup de leurs petits-enfants qui n'osent pas encore, même aujourd'hui, toujours la révéler, mais qui retrouvent le chemin de l'Église et de la communion avec Dieu, après tant d'années. Quant à l'éducation que nous pouvons essayer d'offrir à nos enfants pour qu'ils trouvent le chemin vers Dieu, outre l'exemple de notre foi, de notre prière et de notre jeûne, nous devons les initier aux principes qui sous-tendent toute vie en relation consciente avec Dieu, l'obéissance et l'humilité. Je ne parle pas de l'obéissance comme discipline, mais de l'apprentissage, de l'abandon, du renoncement à la volonté propre, lequel ne se fait qu'à travers l'obéissance. Et par-dessus tout, il importe de leur montrer, par notre exemple, par notre pratique, donc de les découvrir nous-mêmes, que Dieu est vivant, qu'il intervient en permanence dans nos vies, si ou quand nous lui, si ou et quand nous lui en laissons la place, et qu'il est toujours prêt à nous recevoir lorsque nous nous retenons vers lui, même après l'avoir abandonné de multiples fois. Mais gardons-nous aussi de croire que l'on peut le déranger pour des broutilles. La vie chrétienne n'est pas de la magie. Dieu n'est pas un outil pour répondre à nos caprices, même les plus sérieux. Il ne sert pas à avoir de bonnes notes lors d'un examen, ni à redonner la santé lorsqu'on l'a altérée, pas plus que pour trouver une place de stationnement dans un parking encombré. Dieu entend toutes nos prières, certes, mais il les écoute lorsqu'elles sont selon sa volonté. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et non pas au nom de nos caprices. Ces choses sont importantes à découvrir dès le plus jeune âge. Il faut savoir que dans la vie d'une personne, les 7 premières années sont déterminantes et les plus importantes. Voilà pourquoi nos enfants doivent être préservés dans des familles unies, équilibrées, croyantes et ferventes, tout cela autant que faire se peut. C'est à ce moment-là que tout se met en place chez eux. Et lorsque je parle de famille équilibrée, je veux dire des familles fondées sur l'union d'un homme et d'une femme, à l'image de la relation entre le Christ et l'Église, qui mettent leur vie en commun afin d'entreprendre une œuvre unique qui est en premier lieu de fonder une Église domestique et sainte, établie dans la durée et non pas pour une période donnée, avec des enfants si Dieu le permet, sinon par une ouverture sur les autres, autant que le permettent les circonstances, et de porter ensemble une croix commune en communion avec le Christ. Nous avons déjà évoqué précédemment le rôle nocif d'Internet, et j'y reviendrai encore, réjouissez-vous, demain. Mais nous devrions ajouter que c'est toute la pratique pernicieuse de l'utilisation des images qui perturbe la vie des hommes et de nos enfants dès leur très jeune âge. Nous sommes submergés par des millions d'images et d'informations, pas forcément mauvaises moralement d'ailleurs, mais souvent, très souvent destructrices. Il y a une addiction aux écrans. Or, les études scientifiques montrent qu'au-delà d'un certain nombre d'heures passées devant les ordinateurs, les jeux vidéo ou la télévision, des cellules cérébrales se détruisent en grand nombre et altèrent les capacités intellectuelles de tous. Et ce, d'autant plus sévèrement que les spectateurs ou les joueurs sont jeunes, l'expérience de tous les confesseurs et des psychiatres confirme que les gens se plaignent après de ne plus pouvoir se concentrer, d'avoir les plus grandes difficultés à réfléchir, et les croyants à avoir de plus grandes difficultés à prier et à se tourner en silence vers Dieu. La pente est forte, très forte, qui les pousse alors à regarder des scènes de plus en plus excitantes, et la porte de la pornographie assassine est dans ces conditions toute grande ouverte, avec toutes ces séquelles dont il est difficile de s'extraire. Il est donc criminel d'offrir à nos poupons des jouets en forme d'écran ou d'ordinateur, puis de les initier toujours trop tôt à Internet, ce que fait l'école de toute manière bien assez tôt pour que nous ne soyons pas obligés de la devancer. Les heures passées devant les jeux vidéo sont destructrices pour les enfants. Et pourtant, pour avoir la paix et ne pas avoir besoin de s'occuper d'eux, on favorise pour eux très souvent ce passe-temps nocif. Là encore, les remèdes sont spirituels, avant d'être du ressort de la médecine, qui d'ailleurs, jusqu'à ce jour, n'y prête pas une très très grande attention. D'une part, le renoncement à la volonté propre, qui n'est pas l'apanage des athlètes du Christ, des ermites ou des moines, et d'autre part la vigilance, c'est-à-dire l'attention à préserver son cœur des influences qui le salissent. La vigilance et la tempérance permettent d'apprendre à rompre radicalement avec ses attirances. Et si, hélas, on y a déjà succombé, il est possible de se relever en faisant des périodes de diète informatique, des temps de sevrage de plus en plus longs, et le dégoût naîtra en nous pour ces choses avec la grâce de Dieu. Dieu tient compte de notre lutte. Quand saint Antoine, voyant les filets de l'ennemi se répandre sur la terre entière, il demandait « Qui peut alors être sauvé ?» Et une voix lui répondit « L'humilité ». Enfin, et par-dessus tout, nous ne pouvons qu'insister sur la pratique liturgique vivante, c'est-à-dire la nécessité de fréquenter autant que faire se peut la divine liturgie et les offices liturgiques, en comprenant le mystère qui se déroule sous nos yeux, en voyant à travers les prières et les rites une expression de la gloire de Dieu et de son intervention concrète dans notre monde et dans nos vies. Par la liturgie, le Seigneur nous montre sa gloire derrière laquelle il se dissimule afin de ne pas nous éblouir. Cette expérience est possible pour tous, des plus jeunes aux plus âgés, des plus intelligents aux plus simples. Il en va aussi de la responsabilité de nos pasteurs de nous initier au mystère de la prière et de la liturgie. Dans les pays orthodoxes, traditionnellement orthodoxes, tout ceci est un patrimoine ancestral dont les fidèles ne sont quelquefois que trop habitués et n'y font pas à cause de ça toujours attention. Mais ne perdez pas que ces pays-là ne perdent pas, ou les gens issus de ces pays-là ne perdent pas cette richesse, même lorsque les circonstances les éloignent de leur patrie. Et dans ces cas qui sont aussi providentiels, qu'ils se souviennent que leur vocation est d'exporter cette richesse de foi dans les pays où ils s'implantent. Sans le savoir, les personnes au milieu desquelles vous vivez ont soif de cette vie si courante pour vous, et que vous ne le remarquez même pas. Vous ne pouvez pas la leur imposer, mais vous devez la leur montrer vivante, attirante, joyeuse, rayonnante, séduisante, comme une fille de roi en vêtements tissés d'or et parés de couleurs variées. Voilà, mes amis, l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce sujet crucial et tentaculaire. Vous serez sans doute déçus que je ne vous ai pas fourni de recettes infaillibles, mais je ne pense pas qu'il soit possible de le faire. Comme je vous l'ai dit, tout en essayant avec l'aide de Dieu, en l'aide de l'Esprit-Saint et en communion avec le Christ, de faire de notre mieux en fonction de nos situations et de nos caractères individuels, il importe surtout d'avoir une attitude intérieure qui laisse à Dieu le pouvoir de gérer le monde, lui. Dans le Notre Père, nous lui disons « Que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. » Notre manière de lui montrer à quel point nous le voulons, c'est d'opposer à la dégradation visible du monde notre confiance absolue en lui et notre joie la plus profonde qui en découle, car nous savons, nous croyons et nous expérimentons qu'il a déjà vaincu le monde. Notre expérience liturgique et notre prière font de nous des concitoyens des anges, des visionnaires par la foi du paradis, des contemporains des saints, des êtres nouveaux, encore, certes, immergés dans ce monde qui a besoin que nous lui montrions des visages épanouis et souriants, des cœurs remplis de paix et de confiance, parce que Jésus est vainqueur de la mort et qu'avec lui, il nous fait pénétrer dans le royaume de son Père et notre Père, auquel reviennent la gloire et notre adoration, avec Jésus, son Fils unique, vrai Dieu et vrai homme, et l'Esprit Saint, vivificateur de nos vies, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.